Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale se penche sur le travail de la police de l'ONU avec le général Georges-Pierre Monchotte, commissaire de police de la MINUSTAH, la mission de l'ONU en Haïti. L'ONU déploie des forces de police sur le terrain dans le cadre de ses opérations de paix depuis les années 60. Ces composantes de police avaient traditionnellement seulement pour but de surveiller, d'observer et de faire rapport. Mais depuis les débuts des années 90, la police a également été chargée d'un rôle consultatif et de tâches d'accompagnement et de formation, afin de permettre aux opérations de maintien de la paix de jouer un rôle de mécanisme correctif auprès de la police et des autres services nationaux chargés de l'application des lois. De ce fait, le nombre de bérets bleus déployés a considérablement augmenté, passant de moins de 6 000 en 1995 à plus de 12 700 à la fin 2016, ces policiers étant originaires de plus d'une centaine de pays. Responsable des opérations policières de la MINUSTAH, le général Georges-Pierre Monchotte a accepté dans nos studios de donner un aperçu du travail des bérets bleus. On l'écoute.
La composante police de la mission en Haïti est une composante qui est présente sur tout le territoire haïtien, aux côtés de la police locale, la police nationale d'Haïti, la PNH. Et le travail consiste à, d'une part, participer aux côtés de la police locale à l'ordre public. On les soutient dans ces missions. Mais le point essentiel, c'est le renfort de capacité. C'est la raison pour laquelle, en plus d'avoir des forces qui sont dédiées à l'ordre public, que sont les FPU, ces unités constituées de gens formés pour le maintien de l'ordre, j'ai une branche, une sous-composante chargée du développement, qui est la plus importante numériquement. Et cette branche va s'assurer de la transmission de compétences, le renforcement de compétences acquises par les policiers haïtiens, par un travail quotidien de cohabitation, de colocation. C'est ainsi également que nous établissons des plans. Entre 2012 et 2016, il y a un plan de développement qui est en phase de se terminer. Et nous travaillons déjà sur le prochain plan stratégique qui sera et qui est en voie de rédaction par la police nationale haïtienne et qui nous mènera donc en 2021, qui sera le plan stratégique pour le développement de la police nationale haïtienne, afin qu'elle puisse voler de ses propres ailes à un certain moment. Voilà.
Donc si j'ai bien compris, c'est-à-dire que pour l'instant, l'objectif fixé, c'est que d'ici 2021, la police de l'ONU se serait retirée.
Alors tout ça n'est pas fixé, oui. Parce que c'est le conseil de sécurité qui prend ce type de décision, mais il a été nécessaire, si vous voulez, de séquencer les phases du développement de la police nationale haïtienne. Comme je vous le disais, on termine le plan qui 2012-2016, qui était un plan de développement. Maintenant, c'est le plan stratégique 2017-2021, mais ce n'est pas forcément lié à la présence de la mission des Nations Unies. Ça, c'est un autre problème. Simplement, on les aide à rédiger leur plan de stratégique de façon à ce qu'ils continuent à se développer pour arriver aux meilleurs standards internationaux.
Haïti est un pays qui a récemment été frappé par de nombreuses catastrophes naturelles. Il y a eu un tremblement de terre dévastateur. Tout récemment, le passage de l'ouragan Matthew, il y a aussi une épidémie de choléra. Est-ce que dans ce type de situation-là, la police de l'ONU est appelée à jouer un rôle précis sur le terrain?
Alors, en cas de catastrophe naturelle, et je l'ai vécu pour l'ouragan Matthew, bien évidemment, nous sommes présents. Comme je vous le disais, nous sommes répandus sur tout le territoire. Ma composante est répandue sur tout le territoire national haïtien et nous sommes présents dans les 10 départements. À ce titre, aussitôt l'ouragan terminé et dès que les conditions météorologiques ont été satisfaisantes, on s'est déployé aux côtés de la police nationale haïtienne pour se pour se porter au secours de la population, évaluer les dégâts. Et encore aujourd'hui, un mois après cet événement dramatique qui a durement touché la péninsule méridionale, eh bien, nous sommes aux côtés de la PNH pour escorter des convois et participer à la distribution de secours alimentaires ou secours humanitaires. Et pour compléter, si vous le permettez, il y a eu des inondations. C'était un peu le même scénario, beaucoup moins de destruction bien évidemment, mais on a eu le même cadre où dès que ça a été possible, avec la PNH, en coordination, moi je suis en coordination permanente avec le directeur, Michel-Ange Gédéon, avec lequel j'entretiens des relations de confiance et des relations de proximité, on s'est coordonné de façon à pouvoir jeter très rapidement un dispositif opérationnel dans les zones qui avaient été touchées par les inondations le week-end dernier.
D'une manière générale, quels sont les défis auxquels fait face la police de l'ONU sur le terrain pour accomplir son travail ?
Alors déjà, c'est d'avoir la quantité suffisante de personnel et tous les moyens pour exercer sa mission. Après, si l'ONU est déployée, c'est qu'il y a quelque chose à amener, c'est qu'il y a des difficultés. Donc c'est de devoir affronter, si vous voulez, tous les défis que partagent les Haïtiens à nos côtés, ou nous aux leurs. Et puis, le but essentiel, comme je vous le disais, c'est de vraiment porter la police nationale haïtienne aux meilleurs standards internationaux. Et donc de l'accompagner, nous le faisons par la colocation permanente, c'est-à-dire que vous avez des policiers individuels qui sont toujours à leur côté dans les commissariats, mais aussi avec le service dont je vous parlais, chargé du développement, qui dans toute une série de domaines sont aux côtés de la police nationale haïtienne pour développer tout un tas de compétences. Ça peut aller dans les domaines logistiques, de la police judiciaire, de l'inspectorat, de la gestion de la ressource humaine. Tous ces domaines de l'entraînement, la formation à l'école, tous ces domaines, si vous voulez, sont des points de sont des dossiers de collaboration avec la police nationale haïtienne.
Et est-ce que cette question de la formation, est-ce là le plus important défi auquel fait face la police nationale ?
Alors, la police nationale haïtienne a plusieurs défis. Dans la ressource humaine, la formation est absolument essentielle. Vous avez parfaitement raison. Mais également, elle affronte d'autres défis en termes d'organisation et de logistique. Les conditions sont quand même très précaires et donc c'est l'État haïtien qui doit apporter les moyens nécessaires au développement de sa propre police. Mais c'était effectivement ces deux grands défis en ressources humaines et en logistique qui sont les combats quotidiens du directeur général que j'épaule dans ces domaines.
Un problème qu'affrontait Haïti à une époque, et plus particulièrement Port-au-Prince, c'était le problème de l'insécurité. Je crois que la police de l'ONU s'est mobilisée avec succès pour combattre ce fléau. Quels sont les enseignements tirés de cette expérience sur les meilleures stratégies à adopter ?
Alors, d'abord, c'est vrai que les choses se sont améliorées. On a toujours un taux d'homicide assez important. Pour le mois d'octobre, qui est un des plus élevés des mois récents, on était à plus de 100. Quand on compare à d'autres pays de la région, Haïti reste placé de manière très positive. Ça veut dire qu'il y a un impact. La leçon à tirer, si vous voulez, c'est d'abord de pouvoir bien partager les connaissances et bien transmettre les compétences à nos partenaires et les inciter et les accompagner dans la prise en charge de ce phénomène, parce que c'est leur pays, c'est le pays de la police nationale haïtienne. Donc ils doivent vraiment s'approprier ce défi, ce dossier, ce challenge. Et on les accompagne dans ce domaine-là. Par exemple, en travaillant sur l'usage des armes, en renforçant les capacités judiciaires d'investigation, en indiquant les méthodes de patrouille, le contact avec la population, ce qu'on appelle la police de proximité en français. Bon, tout ça, on les accompagne et c'est ce qui s'est effectivement passé. Il y a encore des marges de progression, évidemment, mais si on regarde et si on se compare au passé, il y a eu des progrès très significatifs. Certes, peut-être pas suffisant, mais on est là pour ça. Et on est, à mon avis, sur une bonne trajectoire.
Quel quelle impression, comment voyez-vous votre carrière en Haïti évoluer ou quels sont les grands défis ou les grands chantiers que vous aimeriez tacler?
Alors, j'ai rapidement compris que j'aurais trois fronts à prendre en charge. Le premier, c'est de comprendre le pays. Vous pouvez vous préparer à la mission, lire, vous informer. Mais quand on est sur place, c'est forcément une réalité qu'il faut affronter et comprendre. Le deuxième, c'était de prendre en compte et de prendre en charge ma composante. Ça représente environ 2600 personnes, extrêmement diversifiées. Il y a plus de 40 nationalités. Et comme je vous le disais, nous sommes présents sur tout le territoire. C'est une énorme responsabilité d'appréhender totalement et dans le détail une telle composante, aussi hétérogène. Le troisième front que je m'étais fixé, c'est donc de comprendre, d'appréhender la réalité de la police nationale haïtienne et de pouvoir tisser des relations de confiance avec le directeur général, ce que je fais au quotidien. Alors je peux vous dire que ça faisait beaucoup pour un seul homme. Voilà.
Vous avez mentionné l'hétérogénéité du contingent de police onusien. Quel défi est-ce que cela représente pour le chef de ce contingent en termes de barrières culturelles, linguistiques? Comment est-ce qu'on fait pour gérer toutes ces personnes qui ont des backgrounds tellement différents?
Alors, en fait, plus qu'une difficulté, moi j'y vois d'abord une immense fierté d'être à la tête de tous ces gens qui, pour l'immense majorité, sont parfaitement dédiés à leur mission. En plus, c'est une immense richesse parce que moi, je ne suis pas perclus de certitudes et j'observe, je tire des conclusions et je m'adapte. Et donc, de voir toutes ces personnes venant d'entités extrêmement différentes avec des cultures totalement également différenciées, c'est une grande richesse, ça permet d'échanger. Après, pour harmoniser et pour donner une direction à tout cet ensemble, vous avez les normes onusiennes et puis le commandement. Moi, je suis militaire de formation, je suis gendarme, officier de la gendarmerie, et mon métier, c'est le commandement. Et donc, je commande. Je prends des décisions et je donne des visions, je donne des directions, je donne des ordres et ça marche. Alors, ça pourrait marcher beaucoup plus vite, beaucoup mieux peut-être, mais je peux vous dire qu'en 7 mois, j'ai vu des progrès extrêmement significatifs. Et à partir du moment où les gens sont commandés, eh bien, on montre la direction, ça suit.
Question complètement général. D'une manière générale, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier?
C'est une bonne question. Ouais. Alors, d'abord, si vous voulez, c'est l'intérêt pour ce qui touche à l'international. Là, dans mon métier, la gendarmerie nationale, comme c'est indiqué dans son intitulé, c'est national, donc on est concentré sur nos problématiques de sécurité intérieure. Mais rien ne se fait aujourd'hui dans le monde intégré derrière ses frontières, ses propres frontières. Il faut toujours regarder beaucoup plus loin. Et donc, de mon profil de carrière, j'étais orienté très tôt vers des missions à l'étranger. Et j'ai pu y exceller, en tous les cas m'y complaire, et rendre les services qu'on attendait de moi. À la fin d'un temps de commandement de mon institution, j'ai demandé à pouvoir servir à l'étranger. Et m'a été proposé ce poste qu'il a fallu obtenir, non pas parce qu'il vous est donné, mais parce que vous devez l'acquérir après un entretien et une préparation. C'était aussi un élément de fierté de réussir et de prendre cette position si enviée, parce qu'il n'y a que 7 postes dans le monde de ce type-là. Et donc c'était pour moi un défi, et comme j'en ai rencontré tant d'autres dans ma carrière, et puis une satisfaction personnelle, une joie et une récompense d'un investissement. Et ce qui fait que l'adaptation ne me pose pas de problème. Simplement, c'est d'apprendre à connaître l'environnement, de s'y familiariser, ensuite de s'y adapter ou au moins de le contraindre pour qu'il corresponde à vos objectifs. C'est ce que j'essaie de faire.
Et c'est avec le général Georges-Pierre Monchotte que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal radio d'ONU Info en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.